Medicine returns for a powerful new season.
Our role is being there on someone's worst day.
It can also be a really tough place to work.
Step onto the front line with First Nations medical practitioners.
You had a fall, did you?
With unprecedented access.
You can't control what's going to happen next.
The series reveals how modern medicine and cultural knowledge work together to deliver better care.
That's a pretty beautiful thing to be part of.
Our Medicine. Stream now on SBS On Demand.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Europa Voice, et cette semaine, un épisode un petit peu spécial, toujours avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Un peu spécial puisque ça fait 8 ans qu'on attendait cela approximativement, c'est-à-dire depuis le début de notre série Europa Voice, et on a le plaisir de recevoir Zoé McKenzie, qui est députée fédérale pour la région de Flinders, mais également vice-présidente de la commission parlementaire sur les traités. Vous êtes spécialiste du commerce international et surtout très engagée autour de ce Free Trade Agreement européen. Bonjour Zoé McKenzie.
Bonjour Christophe et Nathanaël, enchanté d'être avec vous aujourd'hui.
Et puis c'est que des bonnes nouvelles. Ce free trade agreement, comme je disais Nathanaël, ça fait un moment qu'on en parle et on savait que ça pouvait être un moment clé de la relation Europe-Australie. Zoé, dites-nous un peu l'importance de ce free trade agreement d'un point de vue du Parlement australien déjà.
Alors là, vous dites 8 ans d'attente. Pour moi, c'est plutôt presque 20 ans d'attente. Cela veut dire, d'accord, quand j'ai été directrice du cabinet du ministre du Commerce extérieur entre 2013 et 2016, on y était à l'attaque déjà. Moi, j'étais responsable pour tout ce qui concernait l'Europe. Et donc, on avait fait pas mal de travaux. On avance pour les négociations commencent pour de vrai entre 2015 et 2018. Cela veut dire on avait envoyé Mathias Cormann, spécialiste Europe, discuter avec Cecilia Malmström, qui était à l'époque le DG Trade Commissioner, je ne sais pas quoi, je ne connais pas son propre nom, mais voilà, elle était responsable pour tout ce qui était commerce extérieur pour l'Europe en 2015. Donc, on avait commencé là, et puis, voilà, ça a pris presque 15 ans, un peu plus, vraiment, pas mal de travail. Deux générations, je dirais, de negotiators, des deux parts, et voilà, on y est arrivé hier, mais ce n'est que l'accord de libre-échange, c'est aussi un accord sur la défense, et
la
aussi,
sécurité, ouais.
On va commencer avec Horizon Europe aussi. Donc, voilà, c'est trois accords, ce qui est bien avec pas mal de bénéfices des deux côtés. Donc, on est satisfait jusqu'ici. On va le regarder de près, c'est évident, parce que moi, je suis, comme vous avez dit, vice-présidente de la commission sur les traités. Et donc, on va voir exactement ce que ça donne pour tout ce qui concerne l'agriculture, mais aussi les services, les choses qui sont très importantes pour l'économie australienne.
Zoé, moi, j'aimerais revenir sur un aspect de votre réponse. Vous avez mentionné que ce n'est pas seulement un accord de libre-échange, mais c'est aussi un accord de défense, de sécurité. C'est un accord aussi sur les programmes de recherche et vous avez mentionné Horizon. Pourquoi ces trois accords-là spécifiquement et pourquoi maintenant?
Bon, comme vous savez tous les deux très bien, l'Europe est une puissance mondiale qui partage les valeurs d'Australie. Donc, comme vous aurez vu dans le discours de notre leader, Angus Taylor, hier, qui parlait en fait de notre histoire ensemble, de notre participation en Ukraine, par exemple, et aussi ce qui vient des premiers et des deuxièmes guerres mondiales. Et donc, être lié plus proche en discussion régulière avec nos collaborateurs ou bien nos interlocuteurs européens, c'est très important dans un monde qui est déséquilibré, je dirais. Donc, à mon avis, ces trois parts sont très importantes. Ni l'un ni l'autre plus important que l'autre. Et donc, on va nous nouer plus dans le futur entre l'Australie et l'Europe. Et ça, je trouve ça, c'est très important dans un moment où on ne sait pas ce qui sera dans l'Asie-Pacifique, notamment. Quand j'étais en Europe, il y a 3 semaines déjà, j'étais en Allemagne et en Belgique. Et j'ai eu pas mal de conversations avec mes des parlementaires, soit dans le Parlement d'Europe, ou bien sinon en Allemagne, sur la défense. Et on avait entre eux des spécialistes sur l'Asie-Pacifique, que je dirais connaissent mieux ce qui se passe dans notre région que nous parfois. Et donc ça, c'était impressionnant, mais aussi très, comment dirais-je, j'avais pas mal de réconfort en écoutant leurs experts sur notre région. Et ça, ça a changé énormément depuis 10 ans. Et c'est très important. Et c'est grâce à ces accords-là, je crois. Mais sinon, ça va être encore mieux, encore plus efficace, encore plus ouvert à partir d'ici. Au moins, je l'espère.
Mmh. Ce qui est intéressant dans cet accord, c'est que, bon, il y a eu aussi tout le plan de AUKUS il y a quelques années. Donc, ça recentre quand même la politique australienne vers l'Europe, alors qu'il y a eu un pas qui avait été pris de côté. On se souvient des sous-marins, on en a parlé à maintes et maintes reprises. Mais là, c'est une sorte, alors en mauvais anglais, mais c'est du commitment pour l'Europe avec une alliance sur la sécurité et la sécurité avec l'Europe.
Oui, tout à fait. Donc, comme vous saurez, AUKUS, il y a deux parties. Il y a le premier qui est le sous-marin, et le deuxième qui est tout ce qui concerne informatique, drones, technologie, voilà, des choses comme ça. Et donc, avec l'Europe, on peut toujours participer là-dedans. Et il y a pas mal de gens qui s'intéressent énormément à le deuxième pôle, on dirait le deuxième, second pillar of AUKUS. Et donc, ça, c'est très intéressant et important aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, la guerre en Ukraine a changé énormément les moyens de faire une guerre maintenant. C'est moins lié à tout ce qui est sur le terrain, c'est plus ce qui est lié dans l'informatique, mais aussi, par exemple, drone technology. Donc, pour tout ça, on a très besoin des amis qui investissent énormément dans ce domaine, y compris l'Europe. Et donc, il y aura pas mal de moyens de participer ensemble. Et maintenant aussi, même dans tout ce qui concerne le terrain, l'Europe est impliquée déjà dans les exercices en Asie-Pacifique. Donc, il y a l'Allemagne, la France, pas mal d'autres qui sont présents dans le Pacifique tous les 2-3 ans, je crois. Des exercices importants dont il y a une dizaine de pays impliqués dans le Pacifique. Et donc, c'est comme ça qu'on peut travailler ensemble pour la protection, la défense de nos valeurs et aussi de nos terrains.
C'est intéressant ce que vous dites, Zoé, parce que on se rappelle avec Christophe, en 2017, quand Emmanuel Macron est élu président de la République, mm-hmm. un de ses discours fondateurs, c'était sur l'axe Indo-Pacifique. Et pour le public français, à l'époque, c'était un grand changement parce qu'on parlait pas beaucoup de ça. On parlait pas tellement de la région Indo-Pacifique. Et il avait un peu ramené ça intégré ça dans le débat français. Il y a autre chose que l'Atlantique, que l'Asie, que le Moyen-Orient, il y a aussi l'Indo-Pacifique. Et c'est intéressant que vous disiez ça sur cette région-là. Moi, j'avais une question sur... on a entendu des confrères français parler d'un ensemble de 27 pays et en face 27 millions à peu près d'habitants, donc 27-27. Pour bien qu'on comprenne, et pour le grand public et pour les auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, de manière très, j'allais dire, pédagogique, ce sont quoi les trois grands aspects à comprendre dans le cadre de l'accord de libre-échange? Qu'est-ce que ça va changer, en fait, pour le consommateur ou le consommateur européen ou le consommateur australien? S'il y avait trois choses à retenir.
Premièrement, je dirais investissement. À l'instant, matière de fait que l'Europe est le deuxième grand investisseur dans le domaine australien, ils ont des règles du jeu qui sont pas aussi généreux que celles de la Malaisie ou bien le Mexique. Et je trouve ça bizarre pour quelqu'un, en fait, pour un pays, ou bien, comment dirais-je, un environ qui a toujours investi dans l'Australie, et ce dont on profite ici, aujourd'hui, en Australie, ça vient plus ou moins des investisseurs d'Europe, y compris Angleterre, bien sûr, mais le fait que vous avez dû faire plus de réglementation, moins de liberté, moins de possibilité d'investir en Australie, ça n'a pas de sens. Donc, le fait que vous pouvez maintenant avoir les mêmes entrées dans notre système que, par exemple, la Chine, Malaisie, Vietnam, ça, c'est important. Deuxièmement, je dirais, le 80% du PIB d'Australie dépend de nos services. C'est pas, en fait, nos produits, nos biens, nos producteurs, c'est les services. Et comme ça, avoir un peu plus de libre-échange entre les services les gens, en fait, l'Europe et l'Australie, ça va nous aider à grandir tous les deux, en les deux côtés. Et troisièmement, c'est évidemment pour le producteur. Donc, je viens de passer un bon moment avec les chefs de notre grape and wine industry, qui me parlaient, par exemple, du fait que les tarifs sur le vin exporté de l'Australie vers l'Europe va disparaître tout de suite, dès que l'accord sera entré en application. Ce qui est bien. Et aussi, vous avez garanti le fait qu'on peut toujours utiliser le mot Prosecco, ce qui est important pour le marché domestique, en fait, le marché d'Australie. Il n'y a que 5% de nos Prosecco qui sont exportés vers la Nouvelle-Zélande. Et pour une raison quelconque que je ne comprends pas, la Nouvelle-Zélande a promis à l'Europe qu'elle ne jetterait que du Prosecco de l'Italie à partir de 5 ans après qu'ils ont signé leur accord avec l'Europe. Donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est que nous pourrions envoyer nos produits, y compris, je peux dire, les vins du Mornington Peninsula, d'où je viens, sans tarif en Europe. Donc, il y a aussi, comment dirais-je, des ouvertures dans le marché pour le bœuf, la viande de bouton, horticulture, laitier, des choses comme ça. Ce qui sera bien, je sais que nos fermiers aimeraient toujours avoir plus d'ouvertures, mais c'est au moins un bon début.
Parce que les accords, c'est sur une certaine période. Le Prosecco, le nom peut être utilisé pendant 5 ans. Le bœuf, il y a des quotas encore pendant un certain nombre d'années. C'est pas ouvert, c'est pas ouverture des portes totales tout de suite.
Ah non. Il y a toujours des quotas, des choses comme ça. Mais des quotas, comme dirais-je, qui sont abordables pour nous. Parce que la plupart, en fait, de notre bœuf, viande de mouton, des choses comme ça, sont envoyés vers la Chine. Parce que c'est eux qui peuvent payer les prix convenables pour nos produits. Et voilà, on aura plus d'entrées dans le marché européen pour nos agriculteurs, et ce qui est bien, mais ce n'est pas, comment dirais-je, une inondation de produits australiens vers l'Europe. Ça, c'est sûr. Mais on n'a pas suffisamment de produits pour les employés.
C'est ce qui doit rassurer les agriculteurs européens, notamment français. On sait qu'il y a eu les négociations du Mercosur qui ont été très tendues, l'accord du Mercosur. L'Australie passe après ça. Donc, au point de vue de l'image, compliqué quand même, compliqué de vendre un projet comme le projet australien tout de suite après le projet Mercosur, non ?
Sachant, Christophe, que le Mercosur rentre en application là, et que ça inquiète pas mal le public européen.
Et je crois qu'en fait, le Mercosur a été retardé un peu. Le traité de Mercosur a été envoyé pour les processus judiciaires quelque part. J'en avais entendu parler quand j'étais à Bruxelles il y a quelques semaines. Et j'espère que ça passera pas avec l'accord avec l'Australie, on verra bien. Mais voilà, oui, j'ai entendu parler pas mal ce qui s'est passé à Bruxelles avec le traité du Mercosur, y compris, je crois, il y avait du lait dans les rues de Bruxelles. C'est comme si les fermiers avaient laissé, oui, je sais pas.
Les fermiers européens sont assez vindicatifs, hein. Il n'y a pas de.
Ouais, c'est ça.
Quel est le ressentiment au sein du Parlement ? Là, on va parler bipartite, on va pas s'atteler sur un côté ou l'autre. Cet accord, il est reçu comment au sein du Parlement, au sein de vos collègues ?
On est en train de lire. Le problème avec un traité d'une telle taille, c'est qu'il y a plusieurs chapitres, il faut lire jusqu'à la fin. Il y a, comment dirais-je, le parti gouvernemental, évidemment, est pour. Et donc, il y a mon côté, où nous sommes en train de lire, savoir exactement ce qui a gagné quoi et ce qui a perdu. Donc, jusqu'ici, ce que j'ai vu, c'était les producteurs des paper products qui n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient, et aussi les agriculteurs, bien sûr. Donc, on va les regarder de près au sein de la commission sur les traités, the Joint Standing Committee on Treaties. Ça va nous prendre plusieurs mois. Et après ça, c'est une question de introduire la législation pour changer le tarifs pour les biens européens qui vont venir en Australie.
Combien de temps ça prend au niveau du Parlement européen, du Parlement australien?
Oui, ça peut prendre plusieurs mois. Ça peut prendre jusqu'à 6 mois, 12 mois. Mais j'espère que ça se passera un peu plus vite. Ça dépend un peu du fait que parfois il y a, comment dirais-je, une baisse de tarifs qui entre en vigueur le jour même de entry into force. Et puis après, il y a une deuxième réduction des tarifs prévue pour le 1er janvier. Comme ça, parfois, on a intérêt à, comment dirais-je, passer les choses le plus vite possible, les introduire, les faire passer par les parents le plus vite possible pour que nos agriculteurs puissent avoir deux relais, des réductions de tarifs le plus vite possible. Mais jusqu'ici, je n'ai pas regardé quelles sont les dates importantes dans l'accord. Donc, on verra bien. Ça, on va l'étudier de près.
Zoé, j'ai une question un petit peu transpartisane, mais qui concerne plutôt les États d'Australie. Est-ce que vous pensez qu'il y a des, il y a peut-être des États, indépendamment des étiquettes politiques, qui seront plus, on va dire, réticents à cet accord de libre-échange, ou c'est pas une question d'État et finalement c'est la même chose dans tout le pays. Est-ce qu'il y a une, voilà, est-ce que je vais comme on dit en français mettre les pieds dans le plat. Est-ce que par exemple du côté de Western Australia, on sera plus réticent à cet accord qu'on est dans le reste du pays, ou c'est à peu près, ce sera pareil et assez uniforme en fait cette réaction-là?
Non. Et pour ça, je vais vous répondre en anglais parce que c'est plus facile. Western Australia benefits most significantly from our exchange in metals and critical raw minerals in particular, and also gold. Those are three of the things that are of most interest to Europe because they serve not just trade goals, but they serve energy and environmental goals, but equally defense and strategic goals. So if there's going to be a beneficiary of this agreement, in large part it will be the West, because the West is where most of those products come from. So I hope that makes sense. I'm sorry, it's a little bit technical, so that's why I've jumped into English on just this point. The West should be strong. Sometimes if states have a particular industry that does not do well, a state can be opposed to it. For example, paper products used to be, in my reflection, particularly Taswegian, but I don't think that's the case anymore. But to my mind, just reading it at top level, I think most states have industries that benefit directly from the provisions of the agreement. Voilà. Désolé de votre français en anglais, un tout petit peu.
C'était très clair.
On a un problème, on a un public bilingue, donc tant mieux.
Bilingue,
tant mieux.
Voilà.
Au niveau de l'Australie, est-ce que cet accord de libre-échange, enfin ces trois accords avec l'Union européenne, est-ce qu'ils présagent, est-ce qu'on anticipe d'autres accords? Est-ce que c'est un petit peu le train qui se met en marche, on continue ou
ouais,
pour l'instant
ce que j'ai pas vu pour l'instant. Normalement, ce qui se passe, avant, on faisait des accords et on les laissait faire. Voilà, c'était fait et puis on avait oublié. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on prévise des révisions tous les 2, 5 ou 10 ans. Cela veut dire, dans 5 ans, on va revenir sur le traité, on va regarder de près, on va savoir si ça accorde à ce qu'on veut maintenant. Quand vous lisez, par exemple, qu'est-ce qui bénéficie de quoi, vous allez trouver, par exemple, des réductions des tarifs sur, par exemple, des amandes, des noix de macadamia, le kingfish, les crevettes, et les carottes et les pommes de terre. Et les gens qui me disent, mais pourquoi vous avez concentré sur les pommes de terre, les crevettes et pas les, je sais pas quoi, une autre chose, des pommes ou bien des poires, des choses comme ça. C'est parce que maintenant, déjà, on fait pas mal d'échanges avec l'Europe sur ces produits-là. Cela veut dire, on a un marché déjà qui marche, qui est recherché en Europe, et on veut éliminer les tarifs qui retardent, en fait, la croissance dans cette vente ou bien cet échange, ce marché-là. Voilà. Donc, parfois, quand vous lisiez le détail, vous vous dites, mais pourquoi vous avez changé de préférentiel les carottes, par exemple? Voilà, c'est parce qu'on a déjà un marché en Europe des carottes australiennes. Voilà. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, ce que d'accord. Je veux bien, c'est que dans 5 ans, en 10 ans, on va ajouter, par exemple, les poires, on va ajouter les abricots, ou je ne sais pas quoi, des choses comme ça qui pourraient intéresser un marché en Europe qui va un peu changer de, comment dirais-je? Changer de pratique. Ce que je vois chez vous, en Europe, cela veut dire chez vous, c'est que vous mangez les fruits et légumes qui sont à la saison et pas autrefois. Cela veut dire en hiver, vous mangez très peu de fraises. Mais chez nous, on mange les fruits et les légumes pendant chaque période toute l'année. Et comme ça, vous pouvez avoir maintenant des fruits et des légumes, par exemple, de l'été chez vous en hiver, parce qu'on va vous les vendre d'Australie. Cette fois-ci, quand j'étais en Europe, il y avait des kiwis partout. Pourquoi? Parce que les Nouvelle-Zélandais ont très bien fait avec l'accord de libre-échange avec l'Europe. Et là, vous avez des kiwis toute l'année. Donc, j'espère bien
que dans 5 ans.
Ouais. Tout à fait. Donc, j'espère dans 5 ou 10 ans, il y aura d'autres moyens d'ouvrir encore des portes à nos produits australiens et aussi des produits européens en retour.
Les Européens ne sont pas prêts pour les bananes australiennes, qui sont excellentes. Ils ne sont pas prêts encore. Ils n'ont pas encore découvert les bananes australiennes. Okay. Je suis conscient du temps. Zoé, merci beaucoup de nous avoir accordé une vingtaine de minutes. Peut-être dernier mot pour l'auditeur sur cet accord, parce que pour nous, c'est une grande marche qui a été passée. Je suppose que pour vous aussi, peut-être un mot de conclusion peut-être de votre part.
C'est juste, comment dirais-je, il y a pas mal de travail à faire. C'est pas tout à fait fait. Ça passe maintenant au Parlement australien de faire le travail pour avoir toutes les, comment dirais-je, les histoires importantes de nos producteurs, de nos services, de nos citoyens qui vont nous dire, voilà, c'est important parce que qu'est-ce qui va changer à cause de cet accord? Il faut toujours avoir les plus, comment dirais-je, testimonials, stories, engagements, expectations de ce qui se passera de cet échange, de cet accord de libre-échange. Et en plus, ce que je veux dire, c'est qu'il est absolument strictement important que nos producteurs essayent de se préparer tout de suite. Si vous avez essayé d'entrer dans le marché européen dans 1 an ou 2 ans, c'est déjà trop tard. Le moment de faire des lancers dans un marché, c'est dès que l'accord est conclu. Maintenant, tout de suite. À l'attaque. Voilà.
À l'attaque. Allons-y.
It's now. It's now, Christophe.
It's now.
The time
it's
is now. Now. Ça, le time is now.
Yesterday.
Merci Zoé Mackenzie du temps que vous avez accordé. Je sais que vous êtes très occupé. On voit, c'est un moment assez important pour vous. Donc merci d'avoir accordé 20 minutes à l'audience d'SBS.
Merci à vous. Au revoir.
A new SBS music station is coming.
SBS Pop Euro.
Filled with Eurovision hits non-stop.
You want more? Tune in from the 1st of May.
On DAB Radio, online.
The SBS Audio app.
And SBS On Demand.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur Facebook.com/SBS French.